Bon, décortiquons tout ça. Quand on imagine vouloir acquérir un nouveau savoir aujourd'hui, notre tout premier réflexe, c'est de trouver une source d'information et de la télécharger direct dans notre cerveau.
Ouais, c'est très moderne comme approche.
C'est ça. On aborde la connaissance avec une vraie mentalité d'accumulation. On veut une nouvelle compétence, un outil de plus pour notre développement personnel. Et c'est vachement centré sur l'acquisition, en fait. On prend un truc extérieur pour se l'approprier.
C'est une démarche très utilitariste, au final. On traite l'information comme une commodité, quoi. Une simple transaction intellectuelle où le récepteur, bah, il reste totalement passif.
Sauf que là, le texte qu'on explore aujourd'hui, il nous arrête net. Il affirme que si notre disque dur intérieur n'est pas formaté avec la bonne intention, ce fameux téléchargement ne vaut absolument rien.
Rien du tout, ouais.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, on plonge dans le premier chapitre d'un texte bouddhiste qui est vraiment fondamental. C'est « Le chemin de la grande perfection » de Patrul Rinpoché.
Un texte majeur, effectivement.
Et ce chapitre, il aborde ce qui semble être le truc le plus passif au monde, écouter un enseignement spirituel. Mais le texte nous avertit d'emblée, avant même d'entendre la première syllabe, il faut impérativement examiner notre attitude mentale et notre comportement physique.
Et c'est un renversement de perspective qui est vraiment fascinant. Patrul Rinpoché, il ne commence pas par de la philosophie abstraite, non. Il commence par la posture même de l'étudiant.
D'accord.
Et il divise cette préparation en deux grandes dimensions. Donc, on a l'attitude mentale d'un côté et le comportement de l'autre.
Alors, juste pour préciser, dans notre exploration d'aujourd'hui, on va laisser le comportement physique de côté pour plus tard.
Tout à fait.
On va vraiment se concentrer exclusivement sur cette fameuse attitude mentale. Et là encore, l'esprit humain ne fait pas face à un bloc monolithique, n'est-ce pas ?
Exactement. Cette attitude, elle se divise elle-même en deux aspects très distincts. Et c'est crucial qu'ils doivent absolument être cultivés en même temps. Simultanément.
C'est là que l'architecture du texte devient hyper précise. Il y a donc deux piliers pour cette attitude mentale. Quels sont-ils concrètement ?
Alors, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, ou bodhicitta en sanskrit.
Mm-hmm.
C'est l'intention suprême. Ça correspond à la vue des sutras, tu vois, donc les enseignements fondamentaux sur la cause, l'effet et la compassion.
Et le second ?
Le second pilier, ce sont les moyens habiles, ce qu'on appelle aussi la vision pure. Et ça correspond à la vue des tantras. Donc des enseignements basés sur une transformation qui est directe et vraiment fulgurante de notre perception.
Ok, mais commençons par le commencement avec l'esprit d'éveil. Le texte introduit cette notion avec une prémisse qui, franchement, donne un peu le vertige.
C'est vrai que ça bouscule.
Ça bouscule complètement notre vision linéaire de la vie, ouais. Il pose comme réalité le samsara, donc le cycle infini, et la conséquence de ce cycle infini, c'est que, depuis la nuit des temps, il n'y a pas un seul être vivant qui n'ait été, à un moment donné, notre propre mère ou notre propre père.
Et il faut vraiment s'arrêter sur les implications psychologiques de ce postulat.
C'est immense.
Oui, parce que si le temps n'a pas de commencement, alors nos relations avec les autres, elles n'ont aucune limite. Le texte nous demande de réaliser que tous ces êtres innombrables, ben, ils nous ont élevés avec la même immense bonté qu'un parent aimant dans cette vie-ci.
Ils nous ont protégés, nourris, c'est ça ?
Exactement. Ils ont sacrifié le meilleur de leur nourriture, de leurs vêtements pour nous. L'idée, c'est pas du tout de créer une théorie abstraite sur la réincarnation. Hein. C'est vraiment d'éveiller une dette de gratitude viscérale.
Donc, chaque inconnu croisé dans la rue porte l'empreinte de cet amour parental passé.
C'est tout à fait ça.
Ce qui rend le constat qui suit d'autant plus tragique, je trouve. Le texte souligne un paradoxe douloureux, presque déchirant pour l'humanité.
C'est le cœur du problème.
Ouais. Tous ces êtres, donc nos anciens parents, ils n'ont qu'une seule et unique obsession. Ils cherchent désespérément à être heureux.
Comme nous tous.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent absolument pas comment y parvenir. Ils ignorent comment pratiquer ce que le texte appelle les 10 actes positifs.
Qui sont pourtant la véritable mécanique du bonheur, selon cette tradition.
Exactement. Et à l'inverse, ils fuient la souffrance de toutes leurs forces, mais ils ne savent pas renoncer aux 10 actes négatifs, qui sont précisément la cause de leur tourment.
Le fossé entre leurs aspirations profondes et leurs actions concrètes, il est juste immense.
Et ça, c'est l'essence même de l'ignorance dans la pensée bouddhiste. C'est pas un manque de données, tu vois, c'est une confusion totale sur les causes et les effets.
Alors, pour rendre ça concret, imaginons quelqu'un qui est complètement coincé dans des embouteillages monstres. Ah oui, l'exemple classique.
Ouais. Cette personne est épuisée, elle ne veut qu'une chose, le calme, la paix, rentrer chez elle. Mais face à la frustration, elle se met à hurler. Elle insulte les autres conducteurs, elle klaxonne frénétiquement.
Ce qui n'arrange rien, bien sûr.
Mais non. Pour obtenir la paix, elle crée un environnement de tension, d'agressivité et de stress insupportable, pour elle-même et pour tout le monde. Elle produit très exactement l'inverse de ce qu'elle recherche.
C'est une super illustration. Et c'est pour ça que Patrul Rinpoche utilise une image si puissante dans le texte. Il dit que ces êtres confus sont comme des aveugles qui auraient été abandonnés au beau milieu d'une plaine déserte.
Waouh, c'est fort!
Oui, ils courent dans tous les sens, ils sont épuisés, terrifiés, mais ils n'ont aucune idée de la direction à prendre.
C'est terrible quand on y pense.
Et l'impact émotionnel de cette métaphore est crucial. Parce que c'est cette compassion, la prise de conscience de cet aveuglement tragique qui doit forger l'intention de celui qui s'apprête à écouter l'enseignement. Ce n'est plus pour son propre bénéfice qu'il écoute.
Il y a une bascule.
Totale. Le texte livre d'ailleurs l'injonction exacte, la formule fondatrice que notre esprit doit adopter. La voici. C'est pour leur bien que j'écoute à présent le dharma profond et le mets en pratique. Je libérerai tous ces êtres, mes parents tourmentés par les douleurs des six états d'existence, de toutes les souffrances et tendances habituelles issues du karma de ces six mondes. Je les conduirai à l'omnisciente bouddhéité.
Waouh ! La portée de cet engagement, elle est colossale. Ce qui nous amène à nous demander comment l'appliquer concrètement.
C'est la question que tout le monde se pose.
Parce que vouloir sauver l'univers entier, c'est noble, hein. Mais quand on s'assoit concrètement sur un coussin ou sur une chaise pour écouter une conférence, on fait quoi de cette intention ?
Heureusement, la tradition ne nous laisse pas démunis face à cette immensité. Le texte explique qu'il existe une vraie architecture de l'action qui est applicable à chaque écoute, à chaque pratique.
D'accord.
Tout acte positif doit être scellé par ce qu'il appelle les trois méthodes suprêmes. C'est ça qui garantit que l'action ne perdra jamais sa force.
Ok, plongeons dans la mécanique de ces trois méthodes. Si je comprends bien, la première, c'est la préparation.
Oui, c'est le cadrage initial. Il s'agit de saisir l'acte avec les moyens habiles. Donc c'est cultiver consciemment et délibérément cet esprit d'éveil, cette bodhicitta que nous venons d'écrire juste avant de commencer. C'est l'étincelle qui allume le moteur, en gros.
Exactement. Ensuite, la deuxième méthode concerne la partie principale de l'action. Et là, le texte stipule qu'elle doit se dérouler dans l'absence de référence conceptuelle.
D'accord. Alors arrêtons-nous là-dessus deux secondes, car l'expression « absence de référence conceptuelle », ça peut paraître assez opaque pour ceux qui nous écoutent.
C'est vrai, c'est un peu technique.
Est-ce que ça veut dire faire quelque chose sans s'accrocher à l'idée même qu'on est en train de le faire, sans l'ego qui se frotte les mains en disant « regardez-moi, je suis en train d'accomplir une action spirituelle remarquable »
Tu as mis dans le mille. La mécanique psychologique se situe exactement là. Avoir une référence conceptuelle, c'est diviser la réalité en trois entités séparées.
Lesquelles ?
Moi qui agis, l'objet de mon action et l'action elle-même. Et cette division, elle nourrit inévitablement l'ego.
Ah, je vois.
L'absence de référence, c'est accomplir l'acte avec une fluidité totale, un peu comme la respiration. Et le texte précise un point fascinant là-dessus.
Lequel ?
Grâce à cette non-conceptualisation, le mérite de l'acte devient littéralement indestructible. Si l'ego n'a pas saisi l'acte, alors une émotion destructrice qui arriverait plus tard, comme un violent accès de colère par exemple, n'a aucune prise pour détruire le bénéfice de cette action.
C'est une sorte de protection immunitaire pour nos bonnes actions en somme.
C'est exactement ça.
Et enfin, il y a la troisième méthode, c'est la conclusion de l'acte. Il faut imposer le sceau d'une dédicace totale.
Oui, la dédicace. C'est l'acte d'offrir le fruit, le mérite de ce qu'on vient d'accomplir, pour l'éveil de tous les êtres, sans exception.
Au lieu de garder le bénéfice pour soi, on le distribue, quoi.
Voilà. L'effet de cette dédicace est exponentiel. Ça fait croître le mérite de manière constante, inépuisable.
Alors, si on résume, ces trois méthodes transforment n'importe quelle action. Mais le texte va encore plus loin. Il affirme que cette attitude d'esprit n'est pas juste un bonus, c'est la condition sine qua non.
Absolument.
Donc, pour pousser le raisonnement, admettons que quelqu'un passe ses journées à écouter les enseignements les plus profonds, qu'il récite des milliers de mantras.
Ok.
Mais que son agenda secret, sa vraie motivation, c'est juste d'être reconnu comme un grand érudit, ou d'obtenir du pouvoir, ou juste de briller en société lors de discussions philosophiques. Quelle est la valeur de ces actes ?
Aux yeux du texte, la valeur est nulle.
Zéro.
Zéro. C'est un point d'une radicalité absolue. Si l'attitude mentale est captée par la soif de reconnaissance ou les intérêts de cette vie présente, alors l'individu ne s'engage pas dans le véritable dharma.
Même si de l'extérieur, ça a l'air parfait.
Exactement. L'apparence de l'acte est spectaculaire, la dimension extérieure semble très pieuse, mais c'est qu'un faux semblant, une coquille vide de tout potentiel libérateur. L'apparence ne compte pas, seule l'intention anime l'acte.
C'est l'antidote parfait à toute cette culture de la performance spirituelle qu'on voit parfois.
Oui, totalement.
Et à l'inverse, le texte affirme que si on adopte cette attitude juste, même l'action la plus minuscule prend une ampleur cosmique. Il cite des exemples très précis, non ?
Oui, il dit que réciter un seul mantra, ne serait-ce qu'un unique mani, donc le mantra de la compassion, ou se prosterner une seule fois, ou même accomplir une circulambulation.
Ce geste rituel de marcher autour d'un objet sacré, c'est ça.
C'est ça. Eh bien, si l'intention universelle est là, ces actes si simples nous font entrer directement sur la voie des grands êtres. La grandeur ne réside pas dans l'acte matériel, mais dans la vastitude de l'esprit qui le porte. Et c'est ce qui clôture ce premier pilier, l'intention.
Ce qui nous amène à une transition essentielle. Parce que si cette intention d'éveil, c'est la fondation invisible de la maison, l'attitude de base, on fait quoi de la maison elle-même ?
Bonne question.
Comment on perçoit la situation concrète dans laquelle on se trouve pour recevoir cet enseignement ? C'est ici qu'intervient le second pilier de l'attitude mentale, les vastes moyens habiles, ou la vision pure issue des mantras secrets, c'est-à-dire des tantras.
Et pour introduire ce saut paradigmatique, Patrul Rinpoché convoque une citation majeure issue du flambeau des trois méthodes qui décrit le véhicule de diamant, les tantras.
Je t'écoute.
La voici, dans toute sa majesté. « Identique quant au but, mais libre de toute confusion, riche en moyens et sans difficulté, ceux dont les facultés sont aiguës le maîtrisent, éminemment sublime et le véhicule des mantras. »
Waouh ! Il y a une promesse qui est extrêmement audacieuse dans cette citation. Sans difficulté.
Oui, ça interpelle.
Un peu plus loin, le texte confirme même qu'on peut faire manifester le fruit de l'éveil sans qu'il soit obligatoire de passer par de grandes épreuves. Alors là, j'imagine facilement le scepticisme de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on est face à un raccourci magique ? Un code de triche spirituel pour s'épargner les efforts ?
C'est vrai que la tentation est grande de le voir comme ça, mais ce serait une vraie méprise. C'est pas une dispense d'efforts, c'est une révolution de la perception.
C'est-à-dire ?
Le texte explique que ce véhicule est riche en moyens pour accumuler les mérites, mais que son moteur principal repose sur l'aspiration. C'est la manière dont nous orientons consciemment notre perception face aux circonstances.
Donc, on change notre regard.
Exactement. Il exige d'arrêter brutalement de percevoir le monde, le lieu, l'enseignant et soi-même de manière ordinaire, triviale ou impure.
On sort du regard banal pour entrer dans le regard sacré.
Et le texte propose une méthode d'une précision chirurgicale pour forcer ce regard Dao, la visualisation des cinq perfections.
Les fameuses cinq perfections, oui. C'est une refonte totale de l'environnement immédiat en cinq étapes. Commençons par la première perfection, le lieu. Le texte nous intime de ne plus voir la simple pièce matérielle avec ses murs et ses chaises, mais de la percevoir comme le palais sans supérieur de l'espace absolu, ou comme le glorieux mont couleur de cuivre, ou encore comme un champ pur. Pourquoi c'est si important de transfigurer le lieu physique comme ça ?
Ben, parce que notre environnement conditionne immédiatement notre état d'esprit. En considérant le lieu comme banal, on adopte une posture banale propice à la distraction.
C'est logique.
Alors qu'en l'élevant au rang de champ pur, on instaure un respect et une réceptivité extraordinaires. Vient ensuite la deuxième perfection qui concerne le maître, celui qui transmet l'enseignement.
Et là, l'instruction est claire, hein. Il ne faut pas le regarder comme un être humain ordinaire affublé de défauts.
Surtout pas. Il doit être perçu comme Samantha Bhadra, qui représente le corps absolu de l'éveil, ou comme Padmasambhava, ou un Bouddha accompli.
Le texte déploie d'ailleurs une profondeur théologique vertigineuse pour justifier ça. Il affirme que le maître est l'union de tous les Bouddhas des trois temps, le passé, le présent et le futur.
Oui.
Qu'il incarne les trois joyaux que sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et qu'il réunit les trois racines et les trois corps.
Et cette énumération, elle n'est pas juste poétique. Elle signifie que l'enseignant qui se trouve devant nous n'est pas un individu isolé. Il est la convergence totale de la voie spirituelle.
Rien que ça.
Oui. Son corps représente la communauté spirituelle, la Sangha. Sa parole est l'enseignement lui-même, le Dharma. Et son esprit est l'état d'éveil, le Bouddha.
C'est magnifique.
Le texte insiste même sur un point crucial. par sa compassion active, par le simple fait qu'il soit présent ici et maintenant pour nous guider, il est supérieur à tous les Bouddhas conceptuels. Il est le Bouddha, il est le Dharma, il est la Sangha. Il est, pour citer le texte, le glorieux Vajradhara.
Imposer cette vision de l'enseignant, ça modifie forcément notre façon d'entendre ces mots.
Forcément.
Ce qui nous amène à la troisième perfection, l'assemblée, l'auditoire. On ne doit pas percevoir ses voisins comme de simples auditeurs, potentiellement agaçants s'ils toussent ou s'ils bougent.
Ah ça, les bruits de salle.
Voilà. Il faut plutôt visualiser que l'assemblée entière est constituée de bodhisattvas, de divinités issues des lignées éveillées, de grands disciples réalisés.
La mécanique derrière ça est très ingénieuse. En voyant chaque membre de l'assemblée comme une divinité, on court-circuite instantanément notre habitude viscérale à juger autrui, à comparer, à ressentir de l'irritation. On crée une bulle de respect mutuel absolu.
Et la quatrième perfection complète ça. Il s'agit du dharma, l'enseignement lui-même, qui ne doit pas être perçu comme un simple discours intellectuel, mais comme la doctrine ultime du grand véhicule.
Tout à fait.
Et enfin, la cinquième perfection, sanala, le temps. L'enseignement ne se déroule pas un mardi à 14h soumis à la montre. On doit se situer dans le temps de l'éternité, le temps parfait dont la roue tourne continuellement depuis toujours.
Ces cinq perfections, elles tissent ensemble une réalité alternative à notre perception habituelle. Elles nous forcent à expérimenter la situation sous son angle le plus élevé.
Mais c'est précisément ici qu'une objection majeure émerge.
Je t'écoute.
Pour un esprit rationnel, tout ce processus s'inventer un palais de cuivre, au lieu d'une salle, imaginer des divinités à la place de gens fatigués, voir un Bouddha omniscient à la place d'un conférencier, ça ressemble furieusement à de la pensée magique.
C'est souvent l'impression que ça donne, oui.
N'est-ce pas un simple exercice d'auto-persuasion ? Une fuite rassurante hors du réel, voire une puissante illusion qu'on s'impose artificiellement ?
L'objection est parfaitement légitime et c'est vraiment la pierre d'achoppement de toute l'approche tantrique pour notre mentalité contemporaine.
C'est difficile à avaler.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le texte et toute la tradition de Patrul Rinpoché s'inscrit totalement en faux contre cette idée de fuite. La définition bouddhiste de la vision pure renverse complètement notre postulat de départ.
Ah bon ?
Oui. Non, ce ne sont pas des inventions. La visualisation n'est absolument pas une création de l'esprit. Visualiser, c'est se remémorer. C'est reconnaître ce qui est déjà là, sous la surface de nos projections habituelles.
Donc l'illusion, c'est notre perception normale.
Exactement. C'est notre perception ordinaire, pleine de jugements et de limites, qui est considérée comme une illusion. La vision pure, c'est voir la réalité telle qu'elle est vraiment.
Alors je crois qu'il faut une analogie concrète pour bien saisir ce basculement, car c'est quand même super contre-intuitif.
Je suis preneuse.
C'est comme nettoyer un miroir recouvert de boue.
Ah, très belle image.
Le reflet parfait a toujours été là. On ne l'invente pas en frottant avec un chiffon, on le révèle. Et d'ailleurs, le texte nous rappelle à quel point nous sommes équipés pour ça. Il mentionne la rareté de posséder un précieux corps humain, l'immense fortune d'avoir un guide spirituel et surtout, le fait que nous portons déjà en nous cette nature de Bouddha.
L'analogie du miroir est très juste. Frotter, c'est cesser de valider la boue comme étant la réalité ultime. C'est reconnaître notre propre potentiel. Comme le souligne le texte, grâce à ces instructions, ceux qui écoutent sont déjà des Bouddhas en devenir.
C'est puissant.
Et Patrul Rinpoché scelle ce chapitre fondamental par une citation qui résume toute l'essence de la vision pure et qui abolit définitivement l'idée que nous inventerions une perfection artificielle. Il dit « Tous les êtres sont en fait des Bouddhas, mais des impuretés temporaires les obscurcissent. Une fois purifiés, ce sont de réels Bouddhas. »
Tous les êtres sont en fait des Bouddhas. Si on prend cette phrase au sérieux, elle détruit toute forme de cynisme ou de désespoir face à l'humanité.
Absolument.
Et nous arrivons au terme de cette première exploration. En synthétisant ce qu'on vient de découvrir, la grande conclusion qui s'impose pour l'esprit humain, c'est qu'écouter n'est jamais neutre.
Jamais.
L'écoute n'est pas l'antichambre de la pratique spirituelle. Ce travail colossal sur la motivation, ce réglage mental à travers l'esprit d'éveil et la vision pure, c'est déjà la pratique.
La transformation s'opère avant même que le premier mot de l'enseignement ne soit prononcé. C'est ce travail préalable, invisible mais fondamental, qui change radicalement la nature de l'information reçue.
On sort de la simple accumulation du coup.
Voilà. Au lieu d'accumuler un savoir de plus pour notre ego, l'enseignement devient une force vive, capable d'être redistribuée pour le bienfait de tous les êtres. Et aujourd'hui, on a exploré la dimension intérieure, l'attitude mentale.
Mais il y a une suite.
Oui, il restera à découvrir l'autre facette, le comportement. Que faut-il faire et surtout que faut-il éviter sur le plan physique, l'attitude extérieure, lorsque l'on s'engage dans cette écoute? Ce sera le sujet d'une prochaine plongée.
Une mécanique tout aussi rigoureuse, sans aucun doute. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on emporte cette philosophie hors des salles de méditation, avec une réflexion ouverte.
Vas-y.
L'idée, ce serait de tester cette fameuse vision pure et cette vaste intention là où elles semblent le moins avoir leur place. Imaginons le trajet du matin. Quelqu'un prend les transports en commun pour aller travailler, le ciel est gris, les visages sont fermés.
Le métro typique, quoi.
C'est ça. Que se passerait-il si, soudainement, on décidait de regarder l'inconnu fatigué assis en face, ou le collègue avec qui la communication est si difficile, non pas comme des obstacles banals ou des sources d'irritation, mais comme d'anciens parents qui, aveuglément, cherchent le bonheur, exactement comme nous le faisons.
Ça changerait tout.
Et si, au lieu de voir un décor urbain sans intérêt, on nettoyait ce miroir mental pour voir le potentiel d'éveil caché sous la routine? Peut-être que la plus grande révolution ne consiste pas à acquérir de nouvelles connaissances, mais simplement à nettoyer la lentille à travers laquelle nous observons le monde. À méditer.